Pour la table ronde suivante, nous avons invité Donovan Le Quadou, Sarah Feuillas et Victor Villafagne pour les artistes. Et cette table ronde va être co-modérée par Keren De Thon, directrice du FRAC Grand Large, et Nicolas Naudet, directeur de Travail et Culture.
Alors, je profite de ce temps d'installation pour rappeler effectivement que cette rencontre organisée par Travail et Culture se place dans le cadre des résonances de la triennale Chaleur humaine, donc co-organisée par le LAC et par le FRAC. Et les résonances, en fait, ce sont différents partenaires en région qui nous ont proposé des échos, des prolongements aux thématiques déployées par l'exposition Chaleur humaine. Et l'une de ces résonances ouvre ce soir à Tourcoing, à l'école d'art de Tourcoing, la Galerie Commune. C'est une exposition des objets de grève de Jean-Luc Moulin. Voilà, donc je ne pouvais pas ne pas le dire. Cette exposition ouvre aujourd'hui, elle sera visible à Tourcoing jusqu'au 21 décembre et vous êtes évidemment tous invités à découvrir pour la première fois ces objets de grève. C'est une exposition menée par les étudiants avec l'artiste Jean-Luc Moulin, visible jusqu'au 21 décembre.
Donc première table ronde autour de la question de l'activité de travail, qui est un terme, qui est un sujet finalement assez peu abordé par les artistes. Donc trois artistes aujourd'hui qui vont nous faire le récit de leurs expériences sur leur proximité, leur travail avec des salariés, en partage de techniques, de technologies, de savoir-faire. Donc Donovan Le Quadou qui commencera dans quelques instants, Sarah Feuillas et Victor Villafagne. La règle du jeu de la table ronde, on l'a un peu bouleversée avec Keren, avec qui j'ai le plaisir de co-modérer cette table ronde. Keren va prendre la parole en fait de façon liminaire au tout début de la table ronde pour vous dire quelques enjeux construits par le FRAC dans le cadre des résidences d'artistes dans le monde du travail, dans les lieux de travail, puisque Donovan et Sarah ont été accompagnés par le FRAC dans ces dynamiques-là, en tout cas dans les projets que vous allez nous présenter. Donc voilà, on va introduire cette table ronde d'abord par la prise de parole de Keren, et s'en suivra une prise de parole de chaque artiste qui nous invitera à découvrir le travail de chacun d'entre eux dans ces différents univers de travail. Voilà.
Oui. Effectivement, le FRAC a travaillé avec Donovan Le Quadou, Sarah Feuillas. Donc je trouvais important de pouvoir vous raconter comment le FRAC Grand Large s'est engagé dans l'accompagnement des résidences en entreprise à partir de 2018. D'abord, nous nous sommes rapprochés d'entreprises qui accepteraient d'ouvrir leurs espaces de travail pour en faire un terrain partagé, sans commande a priori, mais avec un axe de recherche qui est proposé par les artistes. Je me suis d'abord tournée vers les artistes implantés sur le territoire, qui regardaient l'activité industrielle avec curiosité et l'envie de comprendre ce qui se produit, comment et par qui. Ces artistes souhaitaient souvent découvrir des matières ou des modes de production, mais aussi s'intéresser parfois à l'histoire sociale du site. Mais de plus en plus, ce sont les artistes qui ont suscité ces rencontres avec les entreprises et se sont appuyés sur le FRAC comme intermédiaire pour intervenir en résidence. C'était le cas, en l'occurrence, pour Sarah. Le FRAC donc collabore à un dispositif du ministère de la Culture qui s'appelle Résidence en entreprise et qui permet d'accompagner financièrement ces démarches. L'objectif affiché par le ministère, c'est de réduire la distance symbolique entre les artistes et les salariés afin qu'ils puissent partager au quotidien dans l'entreprise le processus de création. Cette distance n'est pas seulement symbolique, elle est aussi matérielle. Aller dans un FRAC, dans un musée, c'est une démarche avec des contraintes, des horaires. La résidence, elle, permet de créer du lien, de découvrir le travail artistique en train de se faire sur son lieu de travail et sur des temps longs. Pour accompagner ce type de démarche, le FRAC va donc aider à travers, à donner un cadre à cette rencontre, à ce travail, donc au travers d'une, d'une convention qui nous permet de choisir une durée, le montant des honoraires de l'artiste, la définition de ses conditions matérielles d'accueil, avec la possibilité d'accompagner des rencontres avec les salariés sur leur lieu de travail ou au FRAC. Mais une vie autonome se met rapidement en place. L'artiste peut être amené à faire visiter son atelier, impliquer d'autres artistes et d'autres entreprises. Ces résidences sont d'abord le fruit de, d'abord et avant tout le fruit de rencontres, et le cadre qu'on met en place est à chaque fois adapté sur mesure. Le seul résultat qu'on anticipe de ces résidences en entreprise, ce sera un bilan de recherche. Aussi, je voudrais souligner la différence qu'il y a entre une résidence en entreprise et la commande artistique, qui peut être une autre modalité de collaboration avec des entreprises locales. Et dans le cadre de la triennale Art et Industrie, certaines entreprises ont justement financé des œuvres sur le mode de la commande. Les choses se déroulent alors de manière très différente. Elles sont cadrées. Les entreprises qui financent ou qui offrent leurs prestations restent dans une forme de transaction qui ne remet pas en jeu les relations de travail habituelles. Ce midi, vous aurez l'occasion de déjeuner et de rencontrer Yemi Awozile. C'est une artiste qui est présentée dans le cadre de la triennale sur la, avec une œuvre en façade de la Halle AP2 et qui est le fruit d'une commande artistique par une entreprise. Ce que je trouve moi intéressant dans la résidence en entreprise, c'est la rencontre et la transmission. Ce sont les ajustements non productifs. C'est l'indétermination et les paradoxes. Le monde du travail salarié négocie une place pour l'artiste et des cultures de travail se rencontrent. C'est évidemment source de malentendus et parfois de tensions. La résidence met en exergue des normes sociales, des représentations collectives et une organisation du travail. Si d'un côté, la question du travail de l'artiste qui s'investit de manière personnelle et prend plaisir à son activité peut appuyer une dynamique managériale qui conforte notre modèle néolibéral, elle apporte dans le même temps une réelle ouverture sur des manières de faire, des manières de regarder son environnement, de donner un sens différent aux choses, d'associer des personnes et de partager des sensibilités. Parallèlement, la reconnaissance du travail des artistes est devenue ces dernières années un enjeu de plus en plus important. Indépendants, les artistes se sont regroupés en collectifs et en syndicats pour demander une valorisation de leur temps de travail et une meilleure prise en compte de leur statut. Et les FRAC, dont la mission est de porter les politiques publiques en région en soutien aux artistes, se doivent d'accompagner le changement sur le terrain, d'assurer que leur travail puisse être reconnu et valorisé et que leurs droits se respecter. Si la résidence est devenue un moyen facilement identifié pour accompagner les artistes dans leur production, elle ne va pas sans poser question sur les biais qu'elle induit. Les moyens alloués ne permettent pas de maintenir les coûts d'un logement stable. Les durées et les distances contraignent les artistes ayant des enfants, par exemple. Mettre en place une scolarité sur des temps courts est compliqué, la garde l'est tout autant. Les attendus relationnels et pédagogiques d'une résidence sont devenus des critères de sélection au détriment d'autres critères artistiques, et les moyens de production ou de diffusion sont généralement limités quand ils ne sont pas inexistants. Ces formats de résidence très répandus ne répondent pas nécessairement ou pas suffisamment aux besoins des artistes. Aussi, les résidences sont souvent considérées comme des leviers, des étapes de recherche, et sont plus généralement tournées vers des artistes en début de carrière. Avec les résidences d'artistes en entreprise, nous avons cherché, quand c'était possible, des moyens de poursuivre l'accompagnement après le temps de la résidence autrement. Malheureusement, les conditions budgétaires actuelles des institutions n'offrent pas beaucoup de marge de manœuvre et l'aventure peut parfois s'avérer un peu frustrante. J'étais récemment à une table ronde à Louvain sur la notion de care. Et je trouvais intéressant de nous poser la question au regard de la résidence. Est-ce que accompagner une résidence, c'est prendre soin de l'artiste ou bien de l'institution ? Le budget d'une résidence qui est moindre que celui d'une commande artistique, n'est-il pas le moyen de nous aider à continuer d'aider les artistes ? Et comment faire en sorte que l'accueil d'un ou d'une artiste au sein d'une entreprise puisse prendre en compte les besoins de l'artiste comme ceux des travailleurs et des travailleuses associées ? Et est-ce qu'une résidence peut favoriser une relation d'attention qui soit réciproque ? Voici donc quelques mots d'introduction pour cette rencontre et ces échanges de témoignages d'artistes, donc certains avec lesquels j'ai eu la chance de travailler, et puis d'autres que je suis ravie aussi d'entendre et de découvrir. Oui, je vais vous donc laisser la parole.
Merci.
Donc on va commencer par Donovan Le Quadou, qui travaille beaucoup sur la question industrielle. Là, on est au cœur de la problématique et qui va nous présenter le travail qu'il a réalisé sur l'ancien site de Total en lien avec le centre de formation. Donc voilà, j'en dis pas plus. Donovan.
Oui, merci. Vous m'entendez, oui. Bonjour, alors moi je suis Donovan Le Quadou, je suis artiste, je suis aussi enseignant à l'École des Beaux-Arts de Dunkerque. J'ai un travail qui tourne beaucoup autour de la vidéo et de la sculpture, qui questionne des notions de déplacement, de ruines et de... Et je travaille beaucoup sur des installations plutôt autour de l'espace public. Et depuis mon arrivée à peu près il y a 10 ans à Dunkerque, je me suis beaucoup intéressé sur l'univers, le paysage portuaire en fait et industriel de la ville. Donc j'ai découvert au fur et à mesure du temps toutes les infrastructures qu'offrait en fait le territoire dunkerquois. Et tout ça a débuté par une rencontre avec un pilote de remorqueur qui m'a un peu permis de rencontrer d'autres intervenants et d'autres acteurs du milieu. Et par la suite est venue l'invitation de Keren sur la résidence à Oléum. Donc c'était une première pour moi, une première résidence. Donc c'était une première expérience assez enrichissante et assez étrange en même temps, parce que je connaissais pas du tout l'univers de la pétrochimie. La résidence se passait à Oléum, qui est une filiale de Total, qui en fait est liée extrêmement à l'histoire de la raffinerie des Bains de Flandre, donc à l'histoire de l'entreprise Total sur le Dunkerquois. Et qui, dans les années 2000, alors que la raffinerie tournait très bien, le groupe a décidé de fermer cette raffinerie, de l'arrêter pendant un arrêt technique. Donc l'arrêt technique, ça prend quelques mois et de préparation et de commande de pièces à changer. Et en gros, un jour, en allumant la radio, les techniciens, ouvriers et ingénieurs qui travaillaient sur la raffinerie ont appris sur France Inter que la raffinerie est fermée. Donc il s'est passé un moment que moi j'aurais bien aimé aussi voir, qui était une grève générale de la raffinerie pendant un an. Donc il y a eu une sorte de vie à l'intérieur de la raffinerie qui s'est passée, où en fait le dépôt pétrolier marchait toujours, mais toute l'équipe qui s'occupait du raffinage, tous les techniciens et les opérateurs, eux concrètement allait travailler, mais ne restait dans les locaux et ne travaillait pas. Donc là, je vous ai mis l'image de ce bâtiment, hein, qui est assez austère. La raffinerie, là, c'est une image de Google Earth, donc c'est pour vous donner une étendue de ce qu'est une raffinerie. Hein. C'est souvent les paysages que l'on découvre en conduisant sur les bords d'autoroute. C'est assez compliqué de résumer cette résidence parce qu'en fait, on était parti sur une résidence de 6 mois et ce projet-là a en fait été fini au bout de 2 ans et demi. Parce que c'était, vous voyez un peu l'étendue, hein, l'échelle de ces sites-là, qui est vraiment gigantesque. Où moi j'ai eu un peu de mal à pas à m'intégrer, mais à comprendre comment tout marchait, et tous les intervenants. Donc, ce qui s'est passé après la grève d'un an, c'est qu'un des opérateurs a eu cette idée de transformer la raffinerie en centre de formation et donc de démanteler une grande partie du site de la raffinerie, donc du site de distillation, les unités. Donc, il y avait 4 unités, là, on en voit plus qu'une et demie, de former les gens à la pétrochimie en toute sécurité, à savoir que auparavant, les gens se formaient sur des centrales directement en activité, donc c'est extrêmement bruyant, extrêmement salissant et aussi extrêmement dangereux parce que ouvrir ou fermer une vanne au mauvais moment peut engendrer des risques aussi humains. Donc là, en fait, la raffinerie tourne, enfin la fausse raffinerie tourne en boucle et avec de l'eau et de la vapeur, et donc les gens viennent de se former, pas seulement du groupe forcément Total, mais du monde entier viennent se former en fait sur ce plateau. Après, ils ont ouvert d'autres formes de ce type-là ailleurs, à Marseille aussi, je crois. Et donc moi, je suis arrivé un peu 10 ans après, et donc je découvrais un peu cet univers-là. C'était assez fascinant parce que c'est vraiment rentré au cœur d'une structure tubulaire qui rouille, parce qu'en fait quand une structure pareille arrête son activité, en fait elle n'est plus entretenue, et en fait ça devient une sorte de ruine assez gigantesque dans laquelle on peut se balader, donc déambuler, et donc on peut rentrer vraiment dans les tours de distillation. Donc c'est vraiment pour moi, et en tant que sculpteur et en tant qu'artiste, c'était vraiment rentrer à l'intérieur de la structure et rentrer dans les tubes et vraiment comprendre physiquement comment ça fonctionnait. Parce que, alors, j'y connaissais rien du tout à la pétrochimie. Donc maintenant, je pourrais pas distiller, mais je comprends un peu plus précisément qu'est-ce qui se passe. Et donc mon arrivée là-dedans, c'était assez curieux parce que c'était vraiment, je connaissais le monde du travail, hein, j'avais travaillé avant et tout ça, mais le monde de la pétrochimie, pas du tout, et le monde de l'entreprise. Donc là, c'était j'étais en relation avec les anciens opérateurs qui étaient devenus eux des formateurs. Donc il y avait une histoire de cycle en fait qui était assez intéressante sur le lieu. Donc j'avais vraiment beaucoup, j'avais accès à cette un peu mine d'or de connaissances avec un des anciens qui m'a un peu pris sous son aile et qui était assez curieux aussi de mon arrivée sur le site. Et ensuite, le temps de comprendre, de voir qu'est-ce qui se passait techniquement sur le site. Donc, je vais vous montrer une vidéo en même temps. Hop. Donc, à mon arrivée, vraiment dans les réunions et tout ça, donc on m'avait donné un bureau à l'intérieur. C'était assez particulier parce que eux, leur lien avec des artistes ou de l'art contemporain, voilà. Donc ça, c'est les images d'aujourd'hui du site de la raffinerie, donc qui est en grande partie à l'époque en démantèlement. Et donc mon arrivée sur ce site-là, c'était beaucoup d'interrogations et beaucoup de questions vis-à-vis des formateurs, parce que ils se demandaient qu'est-ce qu'un artiste foutait là. Donc j'étais un peu l'attraction au début du village. Il y avait beaucoup d'interrogations et c'était vraiment beaucoup de discussions sur ma place ici et moi j'avais beaucoup de questions aussi sur leur mission à eux. Et donc quand tout ça un peu s'est passé, ils ont vu que je suivais un peu toutes les formations. Ce qui était un peu curieux, c'est que c'était un site de formation, et donc moi, dans mon travail de sculpteur, j'avais plus l'habitude de prélever des choses et de les transposer peut-être dans le white cube ou alors dans l'espace public. Mais là, il n'y avait plus vraiment de fabrication d'éléments et c'était plutôt une transmission de savoir. Donc au début, moi, j'étais un peu perturbé parce que je savais pas et je comprenais pas comment j'allais pouvoir intervenir dans ce monde-là. Et surtout que assimiler un univers pareil, c'était assez conséquent. Ce qui a pris vraiment 2 ans. Et dans mon entrée, en fait, quand j'ai commencé à débuter ce travail-là, ils ont un peu compris moi mon intérêt pour le démantèlement. Donc, en leur expliquant mon travail, en leur montrant mon travail aussi à l'atelier lors de visites, il y a un des formateurs qui m'a vraiment aiguillé sur les sites à aller voir, les endroits à absolument voir. Le type de formation à avoir, parce qu'ils ont vraiment un panel de formations assez important qui sont liés à vraiment cet univers-là. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai appris qu'il y avait sur ce site-là un bâtiment qui recelait toutes les pièces qui n'avait jamais été installé sur la raffinerie. Donc toutes les pièces de rechange, hein, donc ça allait de la valve du coude de 2 pouces à la tour de distillation qui mesurait à peu près 40 mètres de haut et qui était toute en inox. Et du coup, dans cette transition-là, moi j'étais arrivé un peu après, cette fameuse tour de 40 mètres de long avait été posée à même le sol et découpée directement, parce qu'en fait elle n'a jamais été installée et jamais été utilisée. Donc vous imaginez un peu les millions d'euros de qui étaient là en stock. Et donc j'ai pu avoir les clés de cet entrepôt-là et sélectionner des objets qui m'intéressaient beaucoup. Donc comme des beaucoup de coudes, une cheminée de station d'aéro-réfrigérant. Donc là on voit un peu toutes les infrastructures dans la vidéo, mais je vais peut-être avancer un peu au niveau du temps. Là, c'est pour vous montrer la finalité. Hein. Donc, en fait, dans cette formation qui a été un peu coupée avec le Covid aussi, j'ai eu dans les mains, j'ai réussi à faire sortir beaucoup de choses qui étaient liées à l'histoire du site. Donc, des coudes qui n'avaient jamais été installées, des vannes, des pales d'aéro-réfrigérants, carrément une cheminée en résine. Donc, des pièces qui étaient vraiment liées à la raffinerie, au raffinage du pétrole. Et aussi, il y a quelque chose qui m'intéressait vraiment énormément aussi, c'était le démantèlement en lui-même du site et qu'est-ce qu'on faisait avec tous ces objets et toutes ces architectures qui avaient dominé vraiment le paysage de Dunkerque et qui débutait aussi la digue du Break, qui était vraiment l'entrée sur le port de tout ce monde industriel. Et donc dans mon travail, j'avais l'habitude de m'immiscer et de transformer sensiblement l'action déjà opérée par des opérateurs ou par des pilotes de démantèlement. Donc je suis venu travailler avec l'équipe de démantèlement à découper une énorme cuve deux énormes cuves qui contenaient 300 000 mètres cubes d'eau, hein, donc on pourrait quasiment mettre une bonne partie du lac à l'intérieur, avec des pelleteuses qui rappellent sensiblement des des animaux préhistoriques qui viennent, en fait, c'est une sorte d'ouvre-boîte géant qui vient découper des cuves. Donc ça fait un bruit assez intense et assez étrange, électrique et métallique. Ces pilotes-là ont l'habitude de déformer, de faire des tas de métal empilé. Donc moi j'avais besoin de quelque chose de plus fin et de plus léger, parce que j'avais envie de physiquement pouvoir les déplacer. Donc j'avais proposé ces pièces-là qui en fait étaient des sortes de rouleaux de métal qui font déjà quasiment un centimètre d'épaisseur. Donc il n'y a vraiment que la force d'une pelleteuse de 40 tonnes pour les plier. Et c'était l'idée de garder cette tresse-là et puis peut-être un jour garder ces éléments-là du paysage en archive pour comme une peinture, en fait, pouvoir l'enlever de son châssis et la dérouler à l'aide d'une autre pelleteuse. Donc c'est vraiment le logo anciennement de Total et l'histoire de ce site un peu particulier. Donc là, c'est d'autres vues de l'exposition Run Test qui avait eu lieu au FRAC dans lequel mêler un peu les pièces que j'avais trouvées à l'intérieur de ce bâtiment qui recelait les pièces qui n'avaient jamais été installées. Donc par l'envie aussi de traiter assez brutalement aussi l'histoire de ce site, j'avais décidé de ne pas intervenir sur la couleur ou sur la matière de ces pièces. De mes compétences techniques, je savais souder, mais j'avais ce besoin d'avoir ce savoir-faire-là de souder au TIG et d'avoir des cordons vraiment qui représentaient cet univers de la raffinerie et d'autres de cet univers-là. J'avais créé une autre résidence dans la résidence où j'étais intervenu à l'IS Group, qui est l'Institut de soudure de Gravelines, enfin de Fort-Mardic. Donc j'étais allé les voir avec tous mes coudes sous le bras, avec les dessins de ces pièces-là, et pensant en fait me faire envoyer voir parce que j'arrivais en plein milieu de l'année avec plein de pièces à construire sans les compétences techniques concrètes pour les faire. Et en fait, ils m'ont accueilli les bras ouverts parce que j'apportais moi une complexité un peu certaine dans la production de pièces, et eux ne travaillaient que sur des tubes droits. Et du coup, en amenant ces coudes-là un peu complexes, en fait, des jeunes et des anciens pouvaient se former ou repasser leur calife sur ces pièces-là. Et en même temps, moi, j'ai pu aussi apprendre et rencontrer des nouvelles personnes qui m'ont apporté d'autres récits et d'autres rencontres qui ont donné lieu à d'autres projets. Je pense que je suis... Merci.
Merci. Allô. Merci beaucoup, Donovan, pour cette exploration du territoire industriel dunkerquois. Ce que je propose de faire, c'est d'enchaîner les trois présentations, parce que sinon le temps va nous manger. Et après, d'avoir un jeu de questions-réponses, à la fois ici sur la scène et à la fois dans la salle, de manière à tenir un peu nos délais. Je vais inviter Sarah Feuillas à changer de place avec Donovan.
Oui, effectivement, beaucoup de choses. Bonjour.
Donc Sarah qui va plutôt nous parler de la ciergerie de Leroy et du travail qu'elle a effectué dans cette entreprise.
Je vais peut-être commencer par ça. Il y a beaucoup de choses. Bonjour. Merci
pour cette invitation. Et donc voilà, je m'appelle Sarah Feyas, je suis artiste, je fais de la sculpture, de la photographie et de la vidéo, et en général plus des installations. J'ai rencontré la Ciergerie Leroy en 2019 lors d'une résidence avec l'association Wellchrome, qui est basée à Boulogne-sur-Mer. Cette première rencontre a été l'opportunité d'essayer de faire des tests de trempage, parce que donc là, ce que l'on voit, c'est la cuve de cire qui a une couleur un peu particulière, donc elle est rouge pour répondre à une commande. Mais donc du coup, voilà, on a ces fils de coton qui sont trempés dans cette cuve de cire qui se trouve aux alentours de 70 degrés et qui, par trempage successif et séchage, donne la forme d'un cierge. C'est une entreprise qui c'est une petite entreprise de 5 personnes. Une directrice et une secrétaire et 3 salariés, qui existe depuis 1870 et dont les gestes n'ont a priori pas vraiment changé, à part peut-être voilà l'acquisition d'une scie à onglet, mais sinon on reste sur les mêmes gestes. Et après cette expérience de 2019, voilà, j'ai parlé de cette entreprise et de ma volonté d'explorer un petit peu cette matière auprès de Keren, et puis ça a donné lieu du coup à cette résidence en entreprise qui est un peu particulière, dans le sens où voilà, c'est une toute petite entreprise, il n'y a pas énormément de place. Les salariés, les 3 salariés qui s'affairent à la cire ont chacun leur poste bien établi. Donc là, on voit Marie, par exemple, qui sélectionne les cierges qui n'ont pas la bonne taille, qui vient découper ceux qui ont la taille appropriée, voilà, et qui les empaquette. Il y avait au trempage Ludovic, qui lui vraiment c'est sa spécialité, donc voilà, il trempe les mèches de cierge dans la cire et avec ses mains il sépare les cierges qui peuvent rester collés, et voilà. Et ensuite il y a Hervé qui s'occupe de toutes les autres commandes, notamment des coulages pour réaliser les cierges de différentes tailles pour les différents besoins, les différentes volontés. Et il se trouve que voilà, le moment où je peux travailler dans la ciergerie, c'est le moment où eux ne travaillent pas. Donc entre midi et 14h. Et voilà, c'est le seul moment où je peux utiliser les outils et, ainsi que les infrastructures. Là, on va bien. Donc voilà, ici c'est l'espace de travail de la ciergerie. On voit en bas donc les cierges qui sont coulés dans des moules et le tourniquet qui sert à réaliser les cierges en trempage. Il y a Marie derrière qui s'occupe d'installer tous les fils de coton sur des petites bandelettes en bois et de réaliser donc les carrés de caillebotis pour le tremper. Ici, on voit Olivia, donc qui descend les escaliers, qui est la directrice de la ciergerie, avec qui j'ai le plus discuté des problématiques des sculptures que je voulais réaliser. Ça a été une très belle rencontre et une très riche rencontre, car grâce à elle, voilà, je pouvais expliquer mes problématiques, comment elle m'aidait sur la manière de réaliser les sculptures. Et parfois, elle restait avec moi durant les temps du midi pour m'aider sur la réalisation des pièces. Voilà. Donc les contraintes, il se trouve que donc il y a cette cuve de cire qui fait 70 par 70 dans la taille intérieure, donc mes sculptures ne pouvaient pas dépasser de ce format-là. Et voilà, il y a aussi la couleur, la couleur qui répond à des commandes particulières. Donc là aussi, je devais prendre en compte ça dans le calendrier de la ciergerie et savoir si je pouvais effectivement réaliser des pièces dans la couleur que je souhaitais. J'ai commencé à travailler en fait avec les mèches de coton et j'ai réalisé des nouages, des macramés qui me permettaient de créer des sculptures plus volumineuses et les difficultés que j'ai rencontrées, c'était voilà, de travailler sur cette période du midi à 14h, en sachant que j'arrivais souvent à 11h du matin. Je me préparais un petit peu, j'installais mon plan de travail, un stand de séchage, et je venais donc tremper les macramés dans la cuve de cire pendant un certain temps, voyant le temps arriver. Il se trouve que la cire, donc c'est une matière particulière parce qu'elle réagit à l'environnement dans lequel elle se trouve. S'il fait chaud, elle risque de ne pas prendre. Donc il faut gérer la température de la cuve de cire pour que la cire puisse s'agglomérer et se former. Et ensuite, son temps de séchage, de refroidissement, est lui aussi un peu... il s'adapte en fonction de l'environnement, qu'on peut ouvrir la porte pour créer un courant d'air et accélérer le refroidissement, mais c'est pas toujours le cas. Donc, par contre, quand il est 14h et que les salariés reprennent leur poste, je devais quitter mon poste, quitter les lieux pour leur laisser la place. Le temps que je charge les sculptures dans ma voiture, où j'avais créé un système de suspension adapté, les pièces continuaient leur déformation durant le trajet, donc c'était aussi problématique. Quand je décidais de m'arrêter sur une forme en particulier, j'étais assez surprise du résultat lorsque j'arrivais à l'atelier, que je déchargeais et les pièces avaient eu le temps de prendre d'autres formes. Lorsque j'arrivais à 11h et que j'installais mon espace de travail, les salariés venaient me voir, c'était le moment où on discutait et eux me disaient à quoi ça leur faisait, ça leur évoquait et on discutait du projet, mais surtout on discutait de ce qu'ils faisaient après le travail, donc voilà, la pêche, les balades, ce genre de choses. C'était des conversations conviviales, agréables. Et lorsqu'ils travaillaient, c'était toujours dans le bruit. Ils avaient une radio au cœur de l'atelier qui diffusait, c'était Delta FM. Et en général, ça n'invitait pas à la conversation. Il y avait beaucoup de temps d'observation. Je les filmais, je regardais leurs gestes. Mais voilà, ça se passait dans le silence et dans le bruit. Et c'était intéressant. Et à côté de ça, voilà, si j'avais besoin d'évoquer certaines problématiques que je pouvais rencontrer, je discutais avec la directrice, avec Olivia. Ce que ça leur évoquait, ces conversations-là étaient assez riches, assez intéressantes, parce que le projet que je réalisais parlait d'un espace sanctuarisé, de la question du sacré que permettait aussi la cire. Là, on a donc Olivia qui m'aide. Cet espace sanctuarisé, voilà, il se réalisait par la création d'une scénographie et donc des sculptures qui parlent entre elles et qui créent un environnement, un univers, et là c'était par le biais du coton, du macramé, du nouage, de ces gestes qui me rappelaient l'enfance, notamment la réalisation de Scooby-Doo, de bracelets marins, ce genre de choses, et voilà, de manière amplifiée, ça me permettait donc de créer ces sculptures plus volumineuses. Et de voir comment la cire réagit. C'est une matière qui est intrigante. Elle m'a plu parce que j'avais travaillé le verre soufflé auparavant et que j'étais justement à la recherche d'une matière qui soit plus simple à travailler dans des termes techniques. Elle se chauffe donc juste à 70 degrés, elle se travaille entre 60 et 70 degrés. On peut toujours pas la toucher avec les mains et c'était un petit peu ce que je cherchais. J'avais une certaine frustration avec le verre soufflé. Je me suis dit que la cire pouvait être parlante, pouvait me procurer plus de liberté dans la réalisation des formes et dans un rapport tactile. Et en réalité, pas vraiment. C'est une matière, donc, comme je le disais, particulière parce que c'est un résidu de pétrole. Donc on en fait toutes sortes d'utilisations. Et puis ce qui reste, on s'en sert pour s'éclairer, pour prier, pour se chauffer. Et je trouvais ça aussi intéressant d'utiliser ces restes-là. Donc c'est une matière qui est d'origine minérale, mais en soi qui est vivante. Et le fait qu'elle dialogue avec l'environnement dans lequel elle se trouve, ça me fascinait aussi. Et effectivement, durant l'été, les sculptures se transformaient. Durant l'hiver, la cire devenait plus cassante et se rigidifiait. Et donc, du coup, voilà, c'était aussi ça qui m'avait interpellée et que je liais avec le verre. C'était qu'elle pouvait se figer dans le mouvement, dans un instant, et en même temps, voilà, s'adapter et se transformer. Et j'aimais bien cette idée, voilà, de course dans le temps, qu'elle a sa propre temporalité. Des pièces réalisées, voilà, je les ai mélangées aussi avec des formes en céramique. Donc voilà, ça, ce sont des sculptures qui participent à l'univers dont je parlais, où il y a à la fois un rapport naturel et manufacturé et industriel ou toxique qu'est cette matière, parce qu'elle est elle est pas vraiment écologique, elle est pas vraiment toxique non plus, mais on sait pas vraiment à quel niveau elle se trouve. Mais donc voilà, il y a ces sculptures qui représentent un univers entre aquatique et végétal et qui sont pour moi encore un peu un mystère. Et voilà, notamment cette résidence devait durer 10 mois. Elle a duré environ 1 an et demi. Et pour des raisons qu'on connaît tous, ça a commencé en 2022, mais il y a eu des suites du Covid, et notamment eux, ils ont rencontré beaucoup de problèmes, notamment dans la chaîne de fabrication des matières premières. Le coût du pétrole a augmenté, le prix du conteneur a augmenté. La matière première, elle est réalisée en Asie du Sud-Est et elle arrive en plaques de cire des cartons de 10 kilos. Voilà, il y a eu aussi la réalisation du coton. Le coton vient de la région de Caen. C'est une fabrication française. Mais voilà, eux aussi ont connu des coûts plus élevés dus à l'inflation. Et voilà. Et donc, il y a eu des modifications. Et au moment où je voulais produire une certaine quantité de pièces, l'acheminement en coton se faisait difficilement, donc voilà, ça a pris plus de temps. Et en fin de compte, pour moi, ces pièces-là, elles restent encore inachevées, dans le sens où elles sont finies. Il y a un corpus d'œuvres qui est assez conséquent et dont je suis satisfaite. Et c'est qu'il y a tellement de possibilités encore que j'ai inexplorées que je sais que je vais retravailler avec eux dans les prochaines années, parce que c'est une matière. Enfin, je crois que cette résidence, elle permet ça. C'est la rencontre avec une matière, la rencontre avec une entreprise et un développement multiple, en fait. Donc, je pense que les moments, les moyens de connexion sont multiples et vont perdurer dans les prochaines années. Pour ma part, en tout cas. Voilà. On est revenu sur le début. Voilà, je m'arrête là.
Merci beaucoup à Sarah. On va tout simplement passer la parole à Victor. Donc Victor Villafagne, qui est sculpteur, créateur sonore, qui va déployer un propos notamment autour de la collaboration que tu as eue avec des salariés de l'entreprise Pandrol, me semble-t-il. Juste préciser que Victor est également en résidence en ce moment avec Travail Culture, en duo avec la photographe Marine Leleu, dans le territoire du Haut-Montreuilois, pas très loin d'ici, sur les questions de travail dans la ruralité, de rareté énergétique. Donc, ça boucle bien avec la triennale. Voilà, je voulais juste préciser cet enjeu. Victor, c'est à toi. Je te laisse prendre l'ordinateur.
Bonjour à tous. Merci beaucoup de l'invitation. Donc c'est vrai que moi, pour cette présentation d'aujourd'hui, j'ai un peu pris le parti de ne pas forcément parler précisément de la résidence que je mène avec Travail et Culture, qui est encore, je pense, pour le moment, en tout cas dans les envies que j'ai envie de faire, un peu trop embryonnaire et peut-être aussi un peu décalée, vu qu'elle est vraiment dans un rapport entre le travail dans le monde rural, mais où on n'a pas vraiment une intervention directe dans une entreprise ou des échanges précis avec des interlocuteurs, et c'est plutôt nous qui les construisons un petit peu au fur et à mesure. Et c'est vrai que du coup, moi, ce que j'avais envie de parler aujourd'hui, en fait, c'était en tout cas l'échange que j'ai pu avoir avec une entreprise qui s'appelle Pandrol, lors de mon projet que j'ai présenté lors de la première année au Frénois, que je viens de terminer en juin. Et en fait, dans ce projet de première année qui s'appelait Near Life Experience, donc expérience de vie imminente, j'ai un peu essayé de faire tout un ensemble de sculptures qui questionnent la naissance des formes et sur leur éventuel presque état de vie, ou en tout cas ce que j'ai essayé de faire dans l'ensemble de ces sculptures, c'était de présenter des matières toujours en transformation, ou en tout cas d'avoir l'énergie et les matériaux qui soient toujours dans une forme de transformation, une forme active et pas forcément figée. Je dirais que mon travail est pas mal inspiré par toute une somme de recherches, que je dirais alchimiques, qui seraient cependant un petit peu démystifiées, mais plus tous les codes alchimiques et hermétiques comme un langage et une écriture qui, pour moi, est presque proche de la musique. Et donc, dans ce projet de première année que j'ai fait au Frénois, comment dire, il y a une matière en elle-même qui m'intéressait à travailler, qui est plutôt une technique d'ailleurs, en fait, qui s'appelle la luminothermie, et qui est plutôt une sorte de changement d'état chimique de la matière. La luminothermie, en fait, ça consiste en un mélange de poudre, d'oxyde de fer et d'aluminium, donc qui sont à un état inerte, qui sont pas du tout considérés comme des explosifs ou comme voilà, c'est juste de la poudre de métal, mais que si on les chauffe à une certaine température, en fait, ils vont rentrer dans une réaction exothermique complètement incontrôlable, et qui va, faire fondre l'acier en quelques secondes à des températures beaucoup plus élevées que les températures de fusion de l'acier. Et donc, ce qui m'intéressait dans cette matière, c'était la capacité qu'elle avait de changer d'état vraiment en quelques secondes et d'arriver dans des extrémités où l'acier qui sort d'un processus aluminothermique sort à plus de 2500 degrés, donc qui est pas mal au-dessus même des 1700 degrés, même un peu en dessous de la fonte de l'acier. Et donc voilà, dans ce projet, j'avais un petit peu l'idée de partir aussi justement de matériaux qu'est la cire, en fait, en essayant de fabriquer une forme, mais de la laisser en fait aller dans sa fabrication, de la laisser apparaître et de juste intervenir pour créer le contexte qui puisse permettre qu'elles apparaissent. Et donc en fait, mon processus, en fait, il consistait à jeter de la cire dans de l'eau, de la cire bouillante dans de l'eau, récupérer ces sortes de formes un petit peu organiques qui en sortaient, et ensuite essayer par un processus de moulage en céramique, donc en fait où je venais retremper cette cire dans une sorte d'engobe liquide, et donc couche par couche, j'avais une couche de céramique qui s'apposait dessus. Donc ensuite, ces moules sont cuits comme dans de la fonderie plus traditionnelle, pour ensuite être remplacés par de l'acier. Lors de ce processus, moi, je kiffais un petit peu de chimie. J'avais vraiment cette envie de fabriquer ces mélanges d'aluminothermie. Et c'était un petit peu compliqué aussi dans le contexte là de formation, en tout cas d'école du Frénois. Donc je me suis retrouvé à travailler avec énormément de chance avec l'entreprise Pendrol qui est installée juste à côté de Valenciennes. En fait, qui est une des deux seules entreprises au monde qui fabrique ce mélange aluminothermique, qui du coup a plusieurs utilités. La première, elle est militaire. Donc ces mélanges aluminothermiques qui sont utilisés pour percer des blindages, pour détruire des appareils. Donc voilà, vraiment dans l'utilisation d'une sorte de matière qui est non explosive, mais qui a une capacité exothermique et de transformation absolument incroyable, et en même temps qui est utilisée aussi pour souder entre les rails de chemin de fer. Donc en fait, voilà, il y a eu un métier qui a commencé à apparaître de soudeur aluminothermique, où en fait, ces techniciens viennent sur les rails de chemin de fer, découpe des parties, les met en jonction et avec des sortes de moules spéciaux prépare la coulée aluminothermique qui se fait en fait en vraiment quelques secondes et qui vient pas seulement en fait souder les rails de chemin de fer entre eux mais les fait réellement fondre et en fait n'en font plus qu'un seul. Et donc en fait moi, disons que comparément aussi aux autres artistes qui sont là, j'ai pas forcément eu la chance de travailler beaucoup avec Pendrol. Ça a été une aventure relativement courte et relativement frustrante pour moi. J'aurais bien aimé en pouvoir la continuer ou en tout cas aller un petit peu plus loin. J'ai l'impression d'avoir réalisé que des formes un petit peu qui sont presque de l'ordre du test. Mais donc voilà, il y avait l'envie de réaliser ces coulées avec eux sur leur site à côté de Valenciennes. Donc ils ont toute une partie d'usine qui est associée à un centre de formation. Et en fait de réaliser des images un petit peu au ralenti de ces coulées aluminothermiques et de ces transformations de matière. Donc essayer de, on va dire dans l'ensemble de mon projet, c'était un petit peu l'idée de d'avoir cette matière qui se transforme et de capturer le plus petit temps possible dans cette transformation, d'utiliser des caméras au ralenti pour avoir vraiment un déroulé de cette action qui prend à peu près une dizaine de secondes à se réaliser et de l'étirer au maximum. Et aussi, en quelque sorte, en même temps, de proposer un échange concret avec les équipes de Pendrol, où moi, je leur amenais aussi ces images-là, que eux pouvaient ensuite analyser pour essayer d'avoir un peu plus de précision sur le fonctionnement de leur mélange. Donc là, on va voir un petit peu une image comme ça, de cette sorte de coulée aluminothermique, et des images, du coup, qui ressemblent vraiment à la création d'un soleil, ou en tout cas, une sorte de surface comme ça, en pleine transformation. Et en fait, là où je voulais en venir, c'était que dans cette démarche de travail, j'ai eu la chance en fait de travailler avec un de leurs salariés qui s'appelait Nicolas Chevalier, qui en fait, ce qui est assez cocasse pour moi, mais qui en fait a travaillé pendant 25 ans dans le centre de formation de la SNCF pour fabriquer des mélanges aluminothermiques qui avaient des problèmes. Donc en fait, il était payé pour réaliser des erreurs, des problèmes de fonctionnement. Et pour ensuite montrer aux autres personnes dans la formation qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire avec ces mélanges aluminothermiques. Mais donc voilà, son travail en lui-même était de montrer qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et donc en fait de faire beaucoup de tests et d'essais au fur et à mesure de sa carrière, où il me précisait aussi que dans la semaine de travail, le vendredi, il y avait plus grand monde au centre de formation et donc lui se retrouvait un petit peu tout seul à avoir la possibilité de tester, d'expérimenter ces matières. Donc quand je suis arrivé dans l'entreprise, j'étais accueilli par cette personne qui mais qui était un petit peu l'artiste de l'entreprise, qui faisait déjà plein de formes en lui-même et qui avait vraiment une expertise et un œil aguerri de cette matière-là. Donc il était un petit peu, on va dire, il avait une certaine forme d'habitude de réaliser un petit peu des perruques ou des choses comme ça, de fabriquer plein d'objets totalement acceptés par l'entreprise, même complètement valorisés. Et donc en fait, ce temps d'échange, il a commencé par vraiment presque un temps d'expérimentation, et on a un peu décortiqué tout le matériel que eux produisent industriellement pour être transmis à des professionnels, et de regarder qu'est-ce qui peut être fait avec cette matière-là, qu'est-ce qu'elle la compose, avec vraiment un œil de sculpteur qui pour moi a été un des plus beaux cadeaux, je pense, qu'on puisse me faire, d'arriver dans cette entreprise et de pouvoir découvrir des techniques absolument incroyables. Et donc voilà, après j'ai réalisé quelques petites sculptures du coup de ça, qui sont du coup réalisées en acier avec des parties en corindon, du coup, qui est le déchet de cette réaction luminothermique, où d'un côté on a de l'acier, de l'autre côté l'aluminium se transforme en oxyde d'aluminium, qui là est purement un déchet dans leur processus, mais qui moi dans ma recherche globale, en tout cas dans ce projet, rentrait en compte comme comment utiliser aussi cette matière-là qui est un déchet pour refabriquer d'autres choses. Donc on va dire dans le projet que je développais, Near Life Experience, j'utilisais l'oxyde d'aluminium qui est un déchet dans cette réaction pour fabriquer des rubis synthétiques, où là l'oxyde d'aluminium est vraiment le matériel premier des rubis. Donc voilà, là c'est une sorte de sculpture avec plein de morceaux qui sont un peu réassemblés, des sortes de tests qu'on a pu faire ensemble, et avec là l'envie aussi de reprojeter les images qu'on a tournées lors de la réalisation des objets sur les sculptures, parce qu'à l'origine je ne voulais absolument pas montrer des sculptures finies, mais de pouvoir vraiment montrer la matière en pleine transformation. Et en fait je voulais partager avec vous un petit accident qui s'est passé lors de la réalisation des sculptures, où malgré l'expertise de Nicolas, qui a réalisé des centaines de tests et d'erreurs pendant de nombreuses années, a été aussi assez surpris comme moi de cette réaction-là. Où en fait, donc c'était un peu pour replacer le contexte, en fin de journée, on avait déjà un peu testé tous les moules qu'on avait préparés. Enfin, c'était un peu le moment de fatigue, et j'avais un moule en plâtre comparément aux autres moules en céramique qui n'était pas cuit, et où j'exprimais énormément des doutes en me disant ok, le moule est vraiment encore humide, ça va peut-être pas le faire, mais Nicolas était très confiant, donc on est un peu allé les pieds dans le plat. Du coup je vais vous montrer un petit peu peut-être à quoi ça ressemble cette soudure aluminothermique. Donc là en fait ce que vous allez voir aussi, c'est on a reproduit une forme d'accident où c'est un peu un truc normalement classique en fonderie, l'humidité dans un moule, c'est la pire chose qui puisse arriver, parce que l'eau se dilate 100 fois en volume lorsqu'elle passe de l'état liquide à l'état gazeux. Et le problème quand l'eau rencontre de l'acier à plus de 2000 degrés, en fait, c'est que cette transformation d'état, en fait, elle se fait en moins d'une seconde. Et elle peut pas être arrêtée, et ça s'empire. Parce que le problème de cette réaction aussi là, c'est que c'est une réaction qu'on peut déclencher, mais qu'on peut pas arrêter, qu'on peut simplement un peu contenir avec du sable, en attendant que ça s'arrête, en fait. On n'a pas vraiment d'autres possibilités. Top là. Donc voilà, là on peut voir en fait dans le setup qu'on avait la sorte de creuset dans lequel en fait le mélange aluminothermique il est installé. Donc c'est vraiment une poudre inerte. On peut la mettre dans une voiture, si la voiture elle brûle, il se passera rien. Mais dès qu'on la chauffe à plus de 1500 degrés, la réaction se lance. Et donc voilà, donc le creuset, il était accroché dans ce contexte-là sur un rail de chemin de fer et un peu en hauteur pour pouvoir un peu capter des images. On peut voir sur la gauche de l'image, en fait, la caméra qui est vraiment installée juste à côté et qui est protégée par une petite vitre en verre de la réaction. Et en dessous, dans cette sorte de cylindre, le moule en plâtre, bien trop humide. Et donc voilà. Là, donc les images sont filmées au ralenti, donc ça met un petit peu de temps, mais on va dire que toute la scène qui se passe dans quelques secondes, en fait, elle a duré vraiment peut-être 5 secondes d'intensité absolument colossale, où on s'est tous regardé avec les membres de l'équipe et les techniciens de l'usine, à regarder aussi la caméra et tout le matériel de tournage qu'on avait extrêmement cher, Donc ça a duré très peu de temps, mais on était tous dans un stress absolument incroyable. Et donc voilà, tout s'en est tiré absolument bien. Il n'y avait pas eu de dégâts pour personne. Donc c'était plus un moment assez cataclysmique de naissance d'une étoile devant nous, où on n'avait pas grand-chose à faire que juste attendre que ça s'arrête. Donc voilà, ce qui est assez drôle, c'est que donc la caméra qui filme, qui était à l'origine prévue pour filmer les images qu'on essayait de faire, donc elle a plutôt un close-up sur la réaction. Donc en fait, on voit très peu de choses ce qui se passe. Cette caméra qui était un tout petit peu plus loin, elle est encore à l'intérieur en fait de la réaction, donc on comprend l'intensité, mais on peut pas vraiment la saisir avec une certaine forme de recul. Et nous qui étions derrière, c'était une sacrée aventure d'assister à ça, où en fait du coup là, en l'espace de 5 secondes, il y a l'équivalent de 7 kilos d'acier et de 3 kilos d'oxyde d'aluminium qui sont projetés absolument partout. Ou autant vous dire qu'en fait dans le moule à la fin il y avait absolument rien, le moule était complètement vide et l'acier était en fait partout autour. On peut voir que le sol en bitume est en train de brûler allègrement et que le moule est toujours en train de renvoyer de l'eau sous forme de vapeur qui ressemble à des flammes. Et donc voilà, je sais pas, c'était assez drôle de se retrouver aussi sur ce moment d'accident où en fait lui, tout son travail a été vraiment tourné autour de cette sorte de démonstration aussi de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et donc voilà, je dirais que après j'avais peut-être la frustration de mon côté et l'envie surtout de pouvoir collaborer encore avec eux, donc j'essaie de trouver des moyens là de créer en tout cas une sorte de possibilité que je puisse encore travailler cette matière là voilà, sachant que c'est très particulier, c'est assez contrôlé, donc en tout cas avoir une possibilité de pouvoir avoir accès un petit peu encore à leurs locaux pour continuer un petit peu cette aventure qui était bien trop courte à mon goût.
Merci beaucoup Victor. Ben, la transition est toute trouvée parce que l'accident que tu montres à l'image me fait penser que en fait dans les trois exemples qui nous ont été donnés par vous trois, il y a cette dimension, sans mauvais jeu de mots par rapport à ce qui vient d'être montré, mais laboratoire de recherche, en fait. Et en fait, on a l'impression que vous recréez un espace-temps, le temps de votre recherche artistique, non pas avec d'autres artistes, mais plutôt avec un environnement de travail, avec la matière qui est produite par cet environnement de travail ou la matière qui est utilisée par cet environnement de travail, mais aussi par la rencontre à des échelles, à des temporalités différentes, avec d'autres travailleurs qui sont soit en formation, soit salariés sur site. Et la question qui me venait en premier, c'est dans les processus, Keren l'a bien exprimé tout à l'heure, les processus de résidence de création dans le monde du travail, c'est quelque chose de compliqué, de complexe. Ça peut prendre du temps, ça amène beaucoup de contradictions, beaucoup d'enjeux, beaucoup de tensions. Et je me demandais, dans les exemples que vous avez donnés tous les trois, quelle est la temporalité de la reconnaissance mutuelle, en fait? Parce que vous arrivez dans un environnement où on ne vous attend pas forcément, en fait, parce que le monde du travail attend pas forcément que des artistes l'investissent. Et cette temporalité-là, elle dure combien de temps? Le temps qu'il y ait de l'intelligibilité qui soit donnée à votre projet. Comment est-ce que, en gros, vous avez fait votre nid, en fait, dans cet environnement de travail? Et comment est-ce que vous avez finalement convaincu, obtenu la confiance et la reconnaissance des gens avec qui vous avez travaillé dans des temporalités à chaque fois différentes? On l'a vu, c'est pas la même chose dans chaque exemple. Je vous tends le micro.
Je prends la parole. Pour répondre un peu à ça, c'est vrai qu'on n'a pas une place directement liée quand on arrive dans le monde de l'entreprise. On nous fait une place ou parfois non. Ça dépend des méthodes de travail de l'entreprise. Mais c'est pour ma part, en fait, j'étais pas l'intrus, mais j'étais la curiosité un peu à la machine à café, quoi, le matin. Et comme moi j'ai un travail assez lent, il y a eu un long moment d'attente et de se demander, mais en fait, il est là, mais qu'est-ce qu'il fait, en fait, parce qu'il nous écoute parler, il vient participer aux formations, mais on voit pas grand-chose de ce qu'il fait, quoi. Et c'est le moment où, en fait, l'entre-deux, où, en fait, ils comprennent que moi, je m'intéresse beaucoup à ce qu'ils font et aux échanges aussi, quoi. Au bout d'un moment, ils venaient me parler de l'exposition qu'ils avaient vue le week-end, et du coup, on pouvait en discuter, quoi. Il y avait ces échanges-là. Mais ça prend du temps, quoi. Et surtout que, bah, moi, pour ma part, j'enseigne aussi à côté, ce qui m'a permis aussi de prolonger la résidence un peu plus longtemps aussi. Mais il faut du temps pour faire du lien, en fait, quoi. Et ça dépend de comment ça se passait, quoi. Et c'est vrai que pendant longtemps, ils ont pensé que je venais juste manger le midi à la cantine, parce qu'en fait, de mon côté, c'était vrai aussi, mais c'était le seul moment où, en fait, ils étaient dispo. Parce que, en fait, on rentre dans une entreprise et bah, il y a un rythme de travail qui se crée. Et en fait, c'est à nous de trouver notre place à comment, en fait, aller parler à un tel ou avoir la clé pour rentrer dans tel local et s'immiscer vraiment dans l'entreprise.
Avec la ciergerie, c'était, comme je le disais, les interactions étaient assez rares ou même possibles. Mais ça se faisait par, enfin voilà, moi qui les observais, qui passais du temps où ils travaillaient, à regarder leurs gestes et à comprendre comment je pouvais détourner ces gestes pour réaliser mes pièces. Et comme le disait Donovan, il n'y a pas d'espace qui nous est créé pour pouvoir travailler. Il faut trouver son espace et le produire et s'installer, enfin voilà, créer cet espace-là. Et les échanges les plus fournis que j'ai pu avoir, c'était même de l'ordre d'un accompagnement dans la réalisation et dans la création de ces sculptures-là que j'entreprenais. C'était un accompagnement de la directrice de la ciergerie, Olivia. Ouais. Et oui, c'est ça. C'était des temps de création assez rapprochés, donc assez courts. Donc la présence des salariés n'était pas. Enfin voilà, ils allaient ailleurs pour manger le midi, à part Hervé, à part un seul qui restait et qui pouvait parfois m'accompagner. Mais sinon, donc voilà.
Et moi, je dirais que c'est vrai que quand je suis arrivé au niveau de Pendrôle, il y avait quelque chose où c'est tellement presque une sorte de pratique de niche. En tout cas, ils sont les seuls à le faire. L'autre entreprise qui fait ça dans le monde est en Allemagne. Mais c'est tellement... je sais qu'ils avaient été extrêmement agréablement aussi surpris que quelqu'un s'intéresse un peu à leur pratique, à vraiment cette technique-là. Donc j'avais été accueilli vraiment... ouais, de manière très enthousiaste de qu'est-ce qu'on va faire ensemble, qu'est-ce que c'est ces choses-là. Et moi, j'ai l'impression qu'aussi d'avoir eu, qu'il y avait déjà presque l'artiste de l'entreprise, ils se disaient juste, ok, il y a un autre Nicolas qui vient, ils vont faire des trucs et ça va être super. Et je sais pas, j'avais l'impression aussi que même au niveau, j'avais beaucoup d'échanges avec l'ingénieur en chef qui était en charge de l'usine et de la production des mélanges aluminothermiques. Et je sais pas, j'avais l'impression que, en tout cas moi là, ma fonction d'artiste, elle était hyper proche de celle de l'ingénieur, sauf qu'on n'avait pas la même finalité, on n'avait pas la même fonction, mais on se rejoignait dans l'idée de, dans le potentiel en fait, où lui il est dans la perpétuelle recherche de variations, de possibilités, de qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça sert, et en fait on était très proches, mais juste on n'a pas le même travail, donc on n'a pas la même finalité en fin de compte, mais c'était un échange très proche dans les... dans les dynamiques de réflexion.
On a un petit 20 minutes en fait pour pouvoir continuer à échanger avec vous si vous n'avez pas trop froid. Donc voilà, si ou si Karen tu souhaites réagir.
Une petite question avant de laisser la parole aux personnes présentes. Est-ce que vous avez l'impression que
votre présence et vos échanges ont transformé le regard des personnes qui travaillaient sur place sur l'art. Est-ce qu'ils ont eu une autre compréhension en fait de l'art par votre présence sur place et vos interactions?
Alors, forcément, mon temps de résidence à moi, il a duré à peu près 2 ans et j'ai rencontré énormément de monde qui était lié vraiment à Oléum, le centre de formation où j'étais invité, mais aussi l'Institut de soudure et aussi les pilotes du démantèlement qui venaient en fait découper avec des pelleteuses des cuves. Et du coup, à chaque fois, c'était un peu... ils trouvaient ça bien curieux d'avoir un artiste en face d'eux dans ce monde-là qui est extrêmement industriel et qui peut être assez dur aussi, enfin qui est assez dur. Et du coup, au fil du temps et au fil de mes passages et de mes rencontres avec eux, forcément, y a des liens qui se créent et des discussions qui sont assez riches en questionnements aussi, où concrètement ils se demandent comment on vit aussi et qu'est-ce qu'on fait, et donc on en vient à discuter d'expositions et de eux, comme je disais le matin, des fois ils savaient que j'étais là, du coup ils avaient des questions sur ce qu'ils avaient vu le week-end ou en semaine sur des expositions, et du coup ça débutait à ce moment-là, quoi. Mais c'est vrai qu'on a une pratique tous les trois aussi bien différente et parfois éloignée de ce qu'on peut attendre de l'art de l'art en règle générale et de leur vision en tout cas à eux et ce qui fait que c'est vrai que curieusement ils s'y attendaient pas du tout que moi je m'intéresse à ce démantèlement et de se dire on n'y voit pas grand chose, on est entouré par cette raffinerie et ces grandes tours de distillation. Moi j'y voyais un intérêt et eux ont revu différemment aussi ce qui les entourait, quoi. Plus tard eux sont allés voir d'autres expos, sont venus au FRAC aussi voir le travail d'autres artistes et le mien. Et je pense qu'il y a eu, il y a eu plein de discussions et plein d'échanges qui ont fait découvrir des nouvelles pratiques aussi, quoi.
La ciergerie, c'était aussi une niche parce que c'est la seule ciergerie du nord de la France qui dessert la quasi-majorité des églises du nord de la France. Et ils ne travaillent pas. Enfin, leur commande, ça reste vraiment la production de cierges en grande majorité, mais ils ont eu l'habitude de travailler avec des artistes pour des commandes particulières et donc du coup de sortir de leurs gestes habituels en 2019 avec le duo d'artistes Clovis 15. On a trempé un filet gigantesque dans la cuve, donc qui faisait 70 cm par 70 cm. Et donc, du coup, ça a créé des besoins spécifiques, d'agencement de l'espace, etc. Mais donc, du coup, c'est des occasions qu'ils prennent pour sur leur temps, pour, détourner, répondre à ces commandes particulières. Et, pour ce qui est du regard porté sur l'art ou sur les pièces le travail que j'ai pu faire, on savait avec Olivia, la directrice de la ciergerie, que les salariés étaient assez peu friands d'art ou d'aller dans les musées, et on savait que de toute façon on leur proposerait de participer aux différents événements qu'on avait organisés avec le FRAC. Mais leur présence ne s'est jamais présentée. Et les productions, par contre, les sculptures que j'ai réalisées, c'était des sculptures figuratives et du coup ça a engendré des conversations, des échanges. Mais à chaque fois, eux, la vision qu'ils en avaient, c'était des fragments de mes pièces. Donc ils ont eu une sorte de petit panorama fragmentée de ce que j'ai produit.
Mais moi, je ne sais pas si ma présence les a tant impactés, vu que c'était quand même relativement court, mais ça, en tout cas, les a... ça dépend un petit peu de quelle partie de l'équipe, mais en tout cas, ça les a, je pense, même pour Nicolas, confortés dans l'idée qu'il était nécessaire de s'approprier aussi les techniques et les formes. J'ai l'impression qu'il était encore plus motivé à continuer, mais dans aussi le rythme de l'usine, où en fait c'est presque nécessaire pour une certaine forme de survie mentale, mais en même temps, les échéances arrivent extrêmement vite et en fait on passe extrêmement vite à autre chose. Je sais que quand ils étaient là, ils ont donné vraiment beaucoup de leur temps, sur un temps assez court, mais qu'ensuite, il y avait un réel besoin pour eux de repartir dans la production et d'être efficace. C'était un peu un temps de respiration. Mais voilà, après, je les ai invités à l'exposition, mais ils ne sont pas venus. Comme, ils avaient d'autres choses à faire.
Raphaël Jeune interviendrait tout à l'heure sur cette question des résidences. J'avais une question en fait assez sensible sur la dimension des enjeux politiques en fait qu'il y a derrière une production. Alors elle s'adresse surtout à Donovan parce que c'est vrai qu'intervenir dans une entreprise ou en tout cas dans une entreprise qui serait reliée à Total. Ça a forcément, j'imagine, pour vous poser la question de savoir comment intégrer ou bien laisser de côté les répercussions qu'a la politique de Total aujourd'hui sur la difficulté de contrer le réchauffement climatique. Et je voulais savoir donc comment, au niveau à la fois des affects, du projet, des échanges que vous aviez avec soit la direction, soit les salariés, c'est quelque chose qui est rentré dans le processus de travail. Comment vous avez réussi à négocier cette complexité, parce que je pense que ça a dû quand même vous poser des questions. Et je pense qu'il ne faut pas les laisser. Enfin, voilà, que c'est pas pour ça qu'il ne faut pas aller travailler chez Total. Hein. Mais en tout cas, voilà, comment ça s'est passé pour vous dans le cours du travail, tout ça?
Oui, forcément, hein, quand on est invité, là, quand j'avais reçu l'invitation de Karen dans ce groupe Total, hein, qui est connu pour plein de choses dont on n'a pas le temps de citer, forcément. Moi, je me suis posé beaucoup de questions et quant à ma présence en tant qu'artiste et ma position, moi. Qui tirait plutôt vers un courant écologique de citoyens, quoi. D'une première partie, ce qui m'a un peu rassuré aussi, c'était que c'était pas une commande de Total et c'était une invitation du FRAC et un financement de la région. Et ce qui faisait que j'avais une interaction assez... j'avais, moi, un peu dans ma tête ce bouclier à me dire, en fait, je suis pas payé par Total pour faire de l'art. C'est vraiment eux qui m'ouvrent les portes. Et je suis très conscient de la réalité de tout ça et de ce que pratiquent plein d'entreprises en termes de greenwashing, auquel je fais partie, forcément. Mais on est plein de contradictions et ce pourquoi j'ai accepté aussi ce projet-là, c'était moi derrière tout ça, il y avait un enjeu. C'était moi aussi dans ma position en tant que jeune artiste que j'arrivais en fait sur ce territoire-là et c'était d'une certaine manière une porte d'entrée à découvrir un nouvel univers. Alors moi j'ai grandi autour de vieilleries et d'une sorte de pseudo casse automobile, mais de cet univers vraiment industriel et extrêmement rude et froid, c'est pas de l'ordre de la fascination, mais j'étais très curieux de découvrir en fait à l'intérieur de en fait qu'est-ce qui se passe, et je me suis demandé en fait est-ce que comme c'est Total on n'en parle pas ou quelle est ma place en fait dans tout ça quoi. Et j'ai décidé d'y aller J'ai découvert plein de choses. Et aussi, je suis beaucoup plus à même de traiter de ce sujet-là aujourd'hui, quoi. Parce que je sais comment c'est fait. Et je j'adhère pas à tout, forcément. Mais c'est vrai que c'est plein de contradictions auxquelles on se demande et on se pose des questions, hein, forcément. Hein, j'ai pas dit oui. Enfin, j'ai dit oui à une résidence, mais c'est vrai que je me suis. C'est quelque chose qui m'est resté vraiment très très longtemps en tête, quoi. Et surtout que ce milieu-là est un milieu extrêmement masculin aussi. Il y a très très peu de femmes, et c'est difficile. Moi, j'étais pas ingénieur, j'étais pas opérateur. Au début, c'est assez curieux, hein, c'est vraiment des contacts qui Hervé Devrienne, qui est parti à la retraite depuis, qui lui m'a un peu pris sous son aile, qui était une sorte de quelqu'un de très 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 généreux et qui avait un petit côté aussi artiste dans sa manière de travailler, quoi. Et c'est vrai qu'on dans ce milieu-là, on rencontre aussi plein de gens assez étonnants et dont on se demande en fait comment ça se fait qu'ils se sont retrouvés à cette place-là, quoi.
Bonjour, j'aurais voulu savoir si en tant qu'artiste, c'était pas un peu frustrant quand les personnes avec lesquelles vous avez partagé des moments, tout ça, ne viennent pas voir l'exposition ou ne comprennent pas obligatoirement ce que vous faites.
Moi, je dirais que ça peut être un peu frustrant, mais je pense que la richesse, elle réside vraiment dans l'échange de savoir et dans cette sorte de transmission aussi matérielle. Et je pense que c'est même là où ils étaient le plus comblés, c'était de pouvoir, en tout cas, quand Nicolas faisait le tour de l'atelier, par exemple, et qu'il disait « Ok, on peut mélanger ça comme ça, avec cette sorte de pâte, on peut faire des moules. » Enfin, il y avait vraiment une énergie qui passait, qui était, je pense, la chose la plus importante à ce moment-là. Il n'y avait pas forcément une attente plus que celle-là. Je pense que, même pour moi, je pense que la chose qui compte au final le plus, c'est de la capacité de transmettre ces choses qui peuvent disparaître, qui sont purement immatérielles, comme les techniques, les savoir-faire, ou même les positionnements qui ne sont pas du tout des choses figées et qu'on peut quantifier comme de la matière, quoi. C'est, j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de frustration, mais en même temps, ça donne toujours aussi la possibilité de leur dire « Ah, ben t'es pas venu, donc il faut qu'on refasse quelque chose. » C'est toujours un prétexte.
Ok, bonjour. Donc merci pour vos témoignages. Ma question, ça porte plutôt à l'inverse d'une question précédente. C'est pour savoir si justement, en vous confrontant au monde du travail en tant qu'artiste, vous mettez en relief justement vos horaires en tant qu'artiste, toute votre situation sociale en fait, justement, en arrivant dans ce contexte salarial, est-ce que justement vous mettez en relief votre condition de non salarié et donc les horaires de travail, etc. C'est plutôt ça. Est-ce que ça amène des changements par rapport à ça ou des réflexions en tant qu'artiste ?
Moi, c'est peut-être un peu particulier parce que je suis aussi enseignant à côté et par exemple, les temps où je pouvais vraiment prendre part à la vie interne et vraiment avancer dans mon travail, c'était pendant les vacances où je commençais en début de semaine et j'arrivais un peu. Je travaillais à l'époque le lundi et le mardi, ce qui faisait que j'arrivais à la fin de la semaine et c'était un peu difficile de se caler à ce rythme-là. Mais et forcément, ça a amené à d'autres discussions et à discuter aussi de mon statut et de aussi de leur faire comprendre que moi je pouvais pas arriver avant, c'est d'arriver en plein boom, et d'expliquer aussi de comment nous en tant qu'artistes on vivait, quoi. Forcément, financièrement, on parle. Généralement, eux savent aussi à notre arrivée combien on est payé. Il y a une question d'argent en fait, se plonger dans une résidence autant de temps, ça demande un investissement assez particulier en rythme et en présence en fait, quoi, qui fait que c'est comment dire. Il y a cette question du temps et qui est emmêle un peu les pinceaux, qui revient un peu constamment, quoi. Et aussi sur leur curiosité à eux de se demander, en fait, après ce projet-là, qu'est-ce que tu fais, comment tu vis, est-ce que tu vends des œuvres, est-ce que tu, comment financièrement tu fais, quoi. Parce que c'est toujours un peu la curiosité de, c'est généralement les questions qu'on retrouve, en fait, de comment est-ce qu'on vit en tant qu'artiste, et où on survit.
C'est les temps possibles pour moi de production étaient encore plus restreints, donc c'était entre midi et 14h, mais aussi le lundi matin, ils mettaient en route les cuves, donc je pouvais pas arriver vraiment le lundi midi parce que ça pouvait être encore tiède, ou enfin voilà, ils faisaient quelques agencements, et pareil pour la fin de semaine, pareil pour le vendredi soir. Il y avait aussi pas de temps, il y a des temps de fermeture l'été et à Noël, enfin fin d'année, mais c'était des temps où personne ne travaillait, donc du coup c'était pas des moments où je pouvais utiliser non plus la ciergerie à mes fins, donc c'était vraiment restreint, et moi ça m'obligeait à devoir être disponible voilà sur la matinée, enfin des temps des plages horaires de 4-5 heures de 4 heures plutôt en plein milieu de la journée, avec une heure de route à l'aller et au retour. Donc c'était parfois assez contraignant, et c'est aussi pour ça que la résidence, elle s'est poursuivie, elle a débordé un petit peu de ces 10 mois. Et effectivement, il y avait des questions pratico-pratiques de voilà, la bourse de production, des droits d'auteur, etc. Et toute l'économie en fait de ce projet, elle a été discutée de voilà savoir combien de mètres de coton j'allais avoir besoin, et comment quantifier aussi la cire que j'allais utiliser pour la production. Donc voilà, c'était des dialogues, des échanges assez intéressant à ce niveau-là, mais difficile de prévoir et de quantifier certaines matières, certaines choses comme ça.
Oui, Marc Lasso. Alors, une analyse à vous faire partager, hein, de ce qui se discute là en ce moment, à la lumière des trois expériences de résidence en entreprise. Et en faisant lien avec le thème du jour, c'est qu'au fond, la résidence en entreprise, ce qui est intéressant, c'est pas tant qu'elle ait lieu en entreprise, c'est qu'elle a lieu autour du travail. Et ce que vient de dire Victor fait lien avec cette question. Et de mon côté, je vois un intérêt à rapprocher des travaux qui, a priori, ou des types de travail qui pourraient sembler éloignés les uns des autres, voire peut-être opposer des images qui sont des images plutôt a priori du travail des uns et du travail des autres, qui seraient quelque chose du côté du travail nécessairement aliéné en milieu industriel, ou en tout cas dans l'entreprise qui pratique du travail standardisé et procédural, et de fait c'est comme ça que ça se passe. Et puis de l'autre, un travail qui serait uniquement créatif et qui serait celui des artistes. Or, et je pense que Victor, Donovan et Sarah l'ont vécu à leur façon, quand on va en entreprise, on se rend compte que le travail, alors je ne parle pas ici de l'emploi ou de la fonction, hein, je parle bien du travail tel qu'il est produit par les personnes, et bien même dans un travail procédural et standardisé, il y a du savoir y faire des ouvrières, des ouvriers, des opérateurs, des opératrices. Donc autrement dit, il y a un endroit de rencontre qui me paraît assez fondamental dans ces résidences en entreprise, c'est précisément la question du travail.
Une question très courte, hein, qui fait peut-être le lien avec les premières qui vous ont été posées. C'est, à votre avis, pourquoi est-ce que les directions d'entreprise dans lesquelles vous êtes intervenus ont accepté votre intrusion, finalement, dans quelque chose qui ne peut que perturber le processus de production ? Et est-ce que ex post, vous avez eu un retour sur l'intérêt qu'ils avaient pu y trouver ?
Ça arrive de manière ponctuelle pour des projets en particulier, et là, d'investir le lieu de cet atelier de production artistique, ça, quelque part, ça fait un peu sens.
Oui, j'avais cette impression aussi que même les entreprises, même maintenant, en tout cas même pour certaines en particulier, j'ai l'impression qu'elles commencent à comprendre aussi les enjeux même de collaboration artistique, de développer aussi leur activité dans des branches qui ne sont pas vraiment ce qu'elles font, et de faire appel aussi à des visions extérieures pour regarder, voir leur travail et l'amener aussi dans d'autres directions, ne serait-ce que dans des questions purement communicationnelles et de croissance, en fait, de se dire mais en fait il faut qu'on montre notre travail de manière différente. Enfin, de la communication et de la publicité, il y a vraiment énormément ça, et en même temps j'ai l'impression aussi que c'est plus possible, parce qu'en même temps, notre société maintenant, j'ai l'impression que la notion de travail, elle s'est légèrement décalée, où en fait, j'imagine, les travailleurs sont ceux qui créent la plus-value, qui créent les richesses, alors qu'en fait, maintenant, on travaille sans travailler, il y a toute une question de j'ai l'impression en tout cas que la cité contemporaine est beaucoup plus comme entièrement une chaîne de production. Et en fait, il y a plus simplement des chaînes de production séparées, mais tout est un ensemble beaucoup plus intriqué. Ne serait-ce qu'on a des téléphones, on crée de la donnée, on crée de la valeur, en fait, on fabrique de l'argent en fait maintenant sans forcément faire quoi que ce soit. Donc on est déjà des corps qui travaillent pour des entreprises à plein d'endroits. Donc en fait, j'ai l'impression que ces entreprises qui sont, on va dire, plus du travail traditionnel, elles sont... elles savent qu'elles ont besoin aussi de s'adapter à cette sorte de question de la visibilité et en même temps aussi de la création d'une certaine forme d'image, en tout cas même dans une entreprise comme Corps Total ou ce genre de choses. C'est une sorte de pouvoir politique en fait aussi de s'approprier un petit peu ces possibilités, même si c'est... même si elles permettent des choses, elles se permettent aussi des choses en faisant ça. Et je pense qu'on peut le voir de plein de manières différentes, que ce soit une sorte de réappropriation, une sorte de lavement un petit peu de ce qui a pu être fait en changeant d'image. Il y a aussi une certaine nécessité d'y arriver là. Mais en même temps, c'est ce qui se passe aussi maintenant, où ceux qui parlent de l'écologie, les pays, les entreprises qui produisent de l'art autour de thématiques écologiques vont être celles qui justement nous ont amenés dans cette crise-là. Et c'est pas pour rien que je sais pas que toutes les grandes expositions sur l'écologie vont être à Riyad et en Arabie Saoudite, dans ces endroits-là, et qu'en fait ce sont eux qui vont dire voilà, alors l'art doit être écologique, c'est très important. Mais enfin, je crois que j'ai fait un petit peu un tour, mais je vais pas trop parler exactement.
Merci beaucoup. On va en rester là pour ce matin, en vous remerciant tous les quatre, pour cette table ronde. Juste pour vous dire que les questions et les enjeux qui ont été posés à cette table ronde vont trouver nécessairement leur prolongement dans la table ronde de 14h30, puisqu'on poursuit sur les questions de résidents d'artistes dans le monde du travail. Donc gardez bien vos questions et vos enjeux pour ce moment-là.